Un paroissien que j'aimais beaucoup, qui est mort brutalement il y a quelques mois, m'a fait le don, devenu posthume, c'est son épouse qui me l'a apporté, d'un livre, un livre de commentaires de la règle de Saint Benoît. Le livre est intitulé « Les Bénédictins », il est en format poche, 1350 pages. 1350 pages, c'est encore marqué 32 euros, vous voyez, c'est un bon rapport quantité-prix. Et depuis, tous les matins, j'en lis quelques pages, un chapitre, en priant pour cet homme. Vous voyez comme quoi les cadeaux que vous me faites ne sont jamais perdus. Et pratiquement à chaque chapitre, je me dis que c'est une lecture qui devrait être obligatoire pour tous les responsables de communautés nouvelles, pour le fondateur de nouvelles communautés, pour qu'ils aient quand même le sens de la tradition, qu'on ne cherche pas à réinventer l'eau chaude, qu'on s'appuie sur ce qu'on connaît bien. Il y a un passage très édifiant en particulier sur ce qu'on appelle les amitiés particulières, très dangereuses dans une communauté, contraires à l'unité, à une véritable fraternité. Et le titre de ce chapitre, c'est le chapitre 69 de la règle, le titre est assez déconcertant qui dit « Que nul dans le monastère ne se permette d'en défendre un autre ». C'est là où on a besoin de commentaires explicatifs pour savoir comment ça a été vécu par la tradition. Cela étant, je ne suis pas sûr que les pratiques religieuses et pratiques monastiques s'appliquent aux chrétiens dans le monde. Au quatrième dimanche de Pâques, au dimanche du Bon Pasteur, nous avons prié d'un seul cœur pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour à la fois le monde paroissial et le monde religieux. Deux mondes qui sont quand même très différents dans leur relation au monde. On disait au siècle, ce qui a donné le mot séculier pour le clergé séculier, et par différence avec le clergé régulier, religieux, qui suit une règle religieuse, et qui est un modèle généralement d'ailleurs de régularité dans un rythme de vie. Alors, on peut énumérer toutes sortes de différences. Certains disent que le monde religieux exige ou suppose beaucoup plus d'obéissance et de sens de la pauvreté, ne serait-ce que pour la vie en communauté. Moi, je dirais plutôt que la différence profonde, c'est un amour du silence. Pour devenir religieux, il faut avoir cet amour du silence. Et en cela, nous avons tous probablement qui prions cette âme religieuse. Et c'est une des grandes difficultés d'ailleurs de vie dans le monde, qui est surtout une vie dans le bruit, de pouvoir trouver le silence et le recueillement. Pendant la Semaine Sainte, des amis très étrangers à l'Église, je dis parfois la société civile ou la société profane, peu importe, m'ont téléphoné, m'ont passé un coup de fil parce qu'ils étaient entrés dans des églises pour les visiter et ils avaient vu, c'était la Semaine Sainte, que les croix et les statues étaient recouvertes d'un voile violet. Alors ils m'ont téléphoné pour dire « Pourquoi ?» Alors je leur ai expliqué, c'est une très ancienne tradition. Alors ils m'ont dit « Mais ceux qui font ça sont des intégristes ?» Elle s'est tout de suite repris, elle dit « Des traditionalistes ? Toi tu fais ça ?» Moi j'ai dit « C'est un peu acrobatique, hein, parce que généralement c'est en hauteur. » Mais dans mon esprit, ce qui est acrobatique, c'est de mélanger des pratiques qui ont tout leur sens dans un univers religieux et la présence et la parole de l'Église dans le monde et dans le monde actuel. Sur cet usage de voiler les crucifix, les statues, à partir du cinquième dimanche de Carême, quand vous faites des recherches sur Internet, vous trouvez facilement une explication qui est donnée par un des grands bénédictins de l'histoire, un illustre bénédictin, Dom Guéranger, qui a été le père abbé de Solesmes, qui a été surtout le refondateur de l'ordre bénédictin en France au XIXe siècle, qui est mort en 1875, et dont, parmi tous ses écrits magnifiques, on extrait ceci pour expliquer cette coutume. « Il est juste que les serviteurs s'effacent quand la gloire du maître s'est éclipsée. Cette austère coutume de voiler donc les crucifix et statues exprime l'humiliation du Rédempteur réduit à se cacher pour n'être pas lapidé par les Juifs, comme nous le lisons dans l'Évangile du dimanche de la Passion. » Ce qui fait que quand je rencontre des confrères de parole, je dis « Hey, les gars, vous êtes sérieux là ? Non, sérieux, vous pensez vraiment que cet usage, cette austère coutume, c'est une proclamation adaptée de l'Évangile à notre monde ? Ce sont quand même deux univers différents, je vous le dis, paroissial, diocésain, l'Église dans le monde et puis la vie religieuse en retrait ou en décalage par rapport au monde, même si elle peut avoir une vocation apostolique, qui ont chacun leur cohérence, qui sont surtout appelés à former une seule Église, appelés à l'unité. Voilà ce que rappellent les textes de ce jour, voilà ce que rappelle ce dimanche. Pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint, il faut être ensemble, unis dans l'unité, vouloir cette unité. Une seule Église, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Alors, deux vocations différentes que sacerdotales et religieuses, même si on peut être à la fois prêtre et religieux, mais qui sont moins différentes que des sacrements comme la prêtrise et le mariage, dont nous savons pourtant que tous les deux sont ordonnés, enfin tous les deux sont au service de l'unité. Voilà la grande leçon sacramentelle. Ces sacrements d'envoi de le monde sont au service de la communion, de l'unité. À chaque mariage que nous célébrons, on interroge solennellement les fiancés juste avant l'échange de consentement, dans ce qu'on appelle le dialogue initial. On les interroge sur leur liberté, sur leur volonté véritablement s'engager pour toute la vie. Et la dernière question, c'est « Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde pour l'annonce de l'Évangile ?» Vous connaissez comme moi la variété des fiancés. Ils répondent tous « Oui !» parce que sinon on s'arrête. Pour certains que nous connaissons tous, « Oh là là, je peux soupirer un peu intérieurement, grimacer. » Surtout quand pendant toute l'année, ils ont dit « Non, on ne veut pas recevoir le sacrement de confirmation, ils veulent se réduire au minimum. » Alors quand je soupire comme ça intérieurement, généralement l'Esprit-Saint passe après, il me donne une petite calotte et il me dit « Rappelle-toi la parabole du débiteur impitoyable. Mauvais serviteur, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ? Mauvais prêtre, ne dois-tu pas avoir patience de tes ouailles comme moi, dit le Seigneur, j'ai pitié de toi ? » Pardon, Seigneur. Cela étant, je comprends le réflexe, on dit quoi, un peu communautaire, de mes confrères, mais d'un grand nombre de catholiques pratiquants, qui voudraient, et on voudrait tous, plus d'unité entre nous, plus de fraternité. On voudrait que l'ensemble des chrétiens, des catholiques, soient davantage respectueux de la loi de l'Église, comme on suppose que le bénédictin l'est de la règle. Et en fait, quand on rentre d'ailleurs dans les commentaires de la règle, il n'y a pas uniquement la règle. Le bénédictin, il repose sur un triptyque, la règle, la communauté et l'abbé. Il faut tenir les trois. Et quand on rentre ainsi, vous savez, un joyau de la règle de Saint-Benoît, c'est l'échelle de l'humilité. Quelques jours après l'ascension, c'est parfait. Voilà, un écrit de circonstance. L'échelle de l'humilité pour monter au ciel à la suite du Christ. 12 degrés sur cette échelle de l'humilité. Il faut déjà connaître le premier parce que c'est ce qui nous fait tous aller vers le ciel. Vivre en présence de Dieu. Premier degré de l'humilité. Vivre en présence de Dieu. Alors, je ne vais pas les énumérer, les 12 degrés, ce serait fastidieux, mais j'en ai retenu 4 pour votre réflexion, notre prière aujourd'hui. Le 4e degré, justement, invite à la patience. Tenir bon dans l'adversité. C'est une belle expression, ça. Tenir bon dans l'adversité. La patience, accepter de se soumettre en silence, dit saint Benoît, aux ordres difficiles, aux contrariétés, voire aux situations d'injustice. La confiance en Dieu, la confiance en la providence de Dieu doit primer sur notre vision personnelle, notre propre jugement de ce qui serait mieux. Évidemment, on sait tous, on dit « Ah non, ce serait mieux comme ça ». La patience, tenir bon dans l'adversité. Quand ça ne correspond pas exactement à notre volonté. Le 6e degré, c'est peut-être celui que je préfère parce que c'est le degré central. Quand on déplace une échelle à l'horizontale, on la prend par le milieu. Et le 6e degré dit simplement Être content en toute chose. Être content en toute chose, c'est comme ça qu'on reconnaît à la fois les saints et les benêts. Vous ferez la différence après. Être content en toute chose. Le huitième degré privilégie le service des autres à l'originalité. Le propre de la vie communautaire, c'est qu'elle oblige à renoncer à l'affirmation de soi, à la singularité. Saint Benoît dit « Le disciple du Christ ne fait rien qu'il n'y soit encouragé par la règle commune du monastère et les exemples des anciens. » Renoncer à son originalité. Et puis, le dixième degré, il exhorte à la gravité. Plus exactement, s'abstenir d'être prompt au rire de sottise ou de légèreté, de ce qui est trop léger. C'est pas l'interdit de rire. On déconseille le rire gras, le rire lourd, celui qui est trop bruyant. C'est un passage du Siracide, d'un livre de sagesse de la Bible, qui dit « Il est écrit que le sot ne peut rire sans élever la voix. » Voilà, un rire trop bruyant. L'homme avisé sourit discrètement. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y avait un baptême assez joyeux. Et puis, à la sortie, un des participants qui était là, qui n'était pas très habitué de l'Église, il dit « Ah, si les messes pouvaient être comme ça, si on jouait, on ballait, connaissez l'argument, on entend ça tout le temps. » La réponse est toujours la même. La réponse, c'est justement une réponse de l'unité. C'est qu'il nous faut pouvoir accueillir et avancer ensemble, accueillir ceux, si nombreux, probablement parmi nous ce matin, qui n'ont pas le cœur à rire, qui ont besoin de calme, de consolation, d'intériorité. Vous voyez, ce ne sont là que 4 degrés. Vous multipliez par 3, vous avez toute l'échelle et une petite idée de la difficulté, c'est-à-dire la difficulté de tenir l'unité entre nous. C'est un chemin difficile de l'unité, c'est le chemin qui conduit au ciel. Et s'il y avait de la règle de Saint Benoît un seul chapitre à lire, une chose à retenir, un seul chapitre à lire, le premier, le prologue, comme un programme. Qui dit d'abord de la règle qu'elle est une école et pas une loi. Une école, pas une loi, qui espère n'imposer rien de dur, rien de pénible, simplement apprendre à avancer ensemble sur le chemin du ciel. L'échelle de l'humilité pour construire cette unité, pour monter, il faut s'abaisser.